Bon réveil, merci d'écouter France Inter, il est 7h. Jeudi 18 juillet, bonjour à tous, bonjour Laurence Thomas.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, les retraites et les réformes à venir, réflexion, simulation, concertation. Jean-Paul Delevoye dévoile les grandes lignes de ce dossier potentiellement explosif. Les autres titres, Laurence ?
Tournez la page, rugis au plus vite. Cyril Graziani nous expliquera combien l'Élysée est encore traumatisée par l'affaire Benalla, un an jour pour jour après cette affaire. Un procès contre Air France, un non-lieu pour Airbus. Le constructeur est exonéré de toute responsabilité dans le crash du Rio Paris qui avait fait 228 morts en 2009. Indignation des proches des victimes. Une première grande étude scientifique sérieuse sur les coupes menstruelles. Elles sont sûres, efficaces et économiques.
Les invités de France Inter ce matin à 8h moins le quart, un couple d'artistes, le photographe Raymond Depardon et la productrice Claudine Nougaret. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec le premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure, la réforme des retraites, le CETA, cette réunion des éléphants du Parti Socialiste hier soir au Sénat à Paris. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter. 18 mois de concertation et nous y voilà. Le haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, dévoilera ce matin ses préconisations pour le futur système universel promis par Emmanuel Macron. L'occasion de répondre aux interrogations autour de l'âge de départ remis au centre des débats par l'exécutif. Les préconisations de Jean-Paul Delevoye devraient servir donc de base au projet de loi attendu en Conseil des ministres à l'automne. Laurent Kramer.
Dans ce futur système de retraite par points, chaque euro cotisé ouvrira les mêmes droits pour chaque Français, insiste le gouvernement. Les régimes spéciaux, salariés du public comme du privé, les indépendants basculeront tous ensemble en 2025 dans un même système de cotisation par points. Jusqu'ici à la manœuvre, Jean-Paul Delevoye avance de nouvelles formes de solidarité et d'équité entre les Français avec des bonifications, des points supplémentaires qui seront accordés notamment aux femmes dès le premier enfant. La question de ceux qui aident un proche contraint de réduire leur activité pour s'occuper d'un parent ou d'un enfant est également sur la table, sujet sensible. Les pensions de réversion seront maintenues pour les couples mariés ou divorcés, mais resteront inaccessibles aux couples pacsés. Les arbitrages les plus délicats de la réforme, comme l'âge d'équilibre, la prise en compte de la pénibilité ou la valeur du point, resteront volontairement flous et sans réponse aujourd'hui, arbitrés par Matignon et l'Élysée d'ici le projet de loi retraite annoncé pour 2020.
Laurent Kramer, alors de nombreux arbitrages sur les questions sensibles ne sont pas encore tranchés, n'ont pas été abordés pendant les concertations, comme l'âge d'équilibre pour toucher une retraite complète ou la valeur du point. Autant de sujets qui n'ont donc jamais été abordés avec le haut commissaire. C'est ce qui inquiète Philippe Pillet, le négociateur pour Force Ouvrière.
La méthode de Delevoye, je vais peut-être être un peu brutal, mais ça s'apparente plus à de l'anesthésie politique qu'à une concertation. Pendant toutes les réunions, on a toujours discuté de concepts. Faites-moi confiance, ça sera mieux. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de dire un jour à monsieur Delevoye, les concepts c'est bien gentil, mais la retraite c'est pas des concepts, la retraite c'est des euros. Et on mange pas avec des concepts, on mange avec des euros. Donc donnez-nous les valeurs d'achat et les valeurs de service du point. C'est ça fondamentalement. Ça, on l'a pas. C'est le cœur du réacteur. C'est combien ma cotisation va me rapporter de points, à quel âge je vais pouvoir partir avec ma retraite complète. Et là, la réalité, c'est avec combien je vais partir. Et ça, jamais le haut commissaire nous a donné d'indication.
Alors cette ébauche de réforme des retraites sera présentée tout à l'heure, ce matin à 8h30 aux partenaires sociaux, puis au Premier ministre en fin de matinée.
Les retraites, une réforme de tous les dangers, mais un autre danger en tout cas, a lui vite été écarté.
Celui de revivre un an après, jour pour jour, le calamiteux été 2018 avec l'affaire Benalla. Cette fois l'exécutif a voulu tourner la page très vite avec la nomination express d'Elisabeth Borne au ministère de la transition écologique pour remplacer François Drugy. Aussi parce que à l'Élysée, Cyril Graziani, personne n'a oublié les débordements de l'ancien chargé de mission Alexandre Benalla.
Certains y ont vu une affaire d'État, d'autres une affaire d'été. Toujours est-il qu'un an après, les traces laissées par Alexandre Benalla au sommet de l'État sont toujours visibles. Le Sénat a cherché la faille, mais tout récemment, les conseillers de l'Élysée, notamment Patrick Strauda et Alexis Kohler, ont été mis hors de cause par la justice après leurs auditions surmédiatisées. Il apparaît, commente l'entourage de Macron, qu'on a assisté à une opération politicienne dont le but était de viser le président. Depuis, le président s'est séparé de ceux qui ont mal géré l'affaire, Ismaël Emelien notamment. Un intime du chef de l'État explique que depuis ce départ, il le trouve libéré. Pourtant, Emmanuel Macron a eu du mal à se déjuger, à se séparer de proches l'ayant accompagné dans son aventure, même si cela a pu atteindre la fonction présidentielle. Parfois, l'affect perturbe la raison, racontait il y a peu lors de son interview Brigitte Macron. Il faut savoir couper la corde pour éviter que tout le monde ne dévale, réplique un macroniste de la première heure. La récente affaire Rugy est encore là pour le rappeler.
Cyril Graziani, 3 militaires morts en Guyane. Ils étaient en train d'intervenir contre l'orpaillage clandestin dans la région de Maripasoula, au sein du parc amazonien. 3 décès accidentels. Ils seraient morts sans doute à cause d'une intoxication alors qu'ils se trouvaient dans un puits. Un homme placé en garde à vue. Une enquête est ouverte après la découverte des corps d'une mère et de sa petite fille sur la commune des Rives, près de Lodève, dans l'Hérault. Les circonstances de ce double homicide n'ont pas été communiquées. Une autopsie doit être réalisée. C'était le 1er juin 2009. Le vol AF-447 s'abîmait dans l'océan Atlantique. Les 228 passagers et membres d'équipage de 34 nationalités avaient péri dans l'accident du Rio Paris, qui restera le plus meurtrier de l'histoire de la compagnie française. En 2011, les deux entreprises avaient été mises en examen pour homicide involontaire. 10 ans après cette tragédie et une longue bataille d'experts, le parquet de Paris a requis le renvoi d'Air France en correctionnel et un non-lieu pour Airbus. Incompréhension et colère des familles de victimes. Philippe Lefebvre.
Et bien tant du côté des familles de victimes que des pilotes de ligne, on se dit consterné par le réquisitoire du parquet de Paris qui semble ne retenir qu'une seule responsabilité, celle d'Air France, en exonérant du même coup de toute responsabilité Airbus, le constructeur de l'avion. Pourtant, en 2010, un an après le drame, Air France avait accusé Airbus et Thales d'être restés sourds à ses alertes concernant la fiabilité des sondes Pitot chargées de mesurer la vitesse de l'avion, sonde en partie à l'origine de l'accident. Et en 2012, le bureau enquête-analyse émettait à son tour les mêmes doutes sur l'efficacité de ces sondes qui permettent d'éviter décrochage et crash. Au syndicat national des pilotes de ligne, on redoute donc que 10 ans après le drame, il s'agisse là d'un procès pour rien. Vincent Gilles est le vice-président du syndicat.
Je n'aurais qu'un regret, c'est que si Airbus n'est pas au procès, ce soit préjudiciable à l'évolution de la sécurité de l'industrie aérienne. Airbus est partie prenante et a une part de responsabilité dans cet accident et j'en suis convaincu. Ne pas la renvoyer au procès, c'est ne pas faire toute la lumière sur ce qui s'est passé.
Reste à attendre désormais la décision des juges d'instruction qui décideront au final du renvoi ou non de la compagnie et du constructeur devant une juridiction correctionnelle, Air France ayant d'ores et déjà indiqué qu'elle maintiendrait sa demande de non-lieu.
Philippe Lefebvre sur France Inter, il est 7h08, la suite de votre journal Laurence Thomas.
Près de 2 milliards de femmes dans le monde sont en âge d'avoir leurs règles. Elles passent en moyenne 65 jours par an à gérer leur flux de sang. Or, jusqu'à ce jour, peu d'études de qualité s'étaient intéressées aux moyens de protection. Moins utilisés en France, contrairement aux pays anglo-saxons, les coupes menstruelles sont tout aussi efficaces que les serviettes hygiéniques ou les tampons. Elles sont surtout une alternative plus écologique et beaucoup moins chère, Sophie Bécherel.
L'étude du Lancet balaye 43 publications scientifiques qui ont concerné 3300 femmes. Elle vise pour la première fois à comparer les coupes menstruelles peu connues aux tampons et serviettes hygiéniques. Résultat, elles sont aussi efficaces. Il n'y a ni plus ni moins de fuite avec ce dispositif inséré dans le vagin. Elles sont aussi sûres. Les chercheurs n'ont pas mis en évidence de risques supérieurs d'infection par rapport aux tampons, lesquels ont récemment été accusés de provoquer des chocs toxiques menstruels, un syndrome dû à la bactérie staphylocoque dorée. Dans l'étude du Lancet, cependant, sur les 3300 utilisatrices, 5 ont connu un choc toxique. Pour l'éviter, les autorités sanitaires, dont l'ANSES en France, recommandaient l'an passé de ne pas garder trop longtemps lors d'une journée le même tampon ou la même coupelle. L'agence sanitaire est actuellement en train d'explorer les composés chimiques présents dans le latex ou le silicone de ces dispositifs. Reste le coût, un atout réel, notamment dans les pays pauvres ou pour celles qui ne peuvent se payer tampons et serviettes chaque mois, de 1 à 40 dollars suivant les pays. Les coupes sont une alternative valable parce qu'on peut les réutiliser après lavage, à condition d'en promouvoir l'usage pour changer les a priori.
Sophie Bécherel, quand la généalogie génétique vient disculper pour la première fois un Américain victime d'une erreur judiciaire, un tribunal de l'État de l'Idaho a totalement blanchi Christopher Tapp, qui a passé 20 ans en prison pour viol et meurtre, jusqu'à ce qu'en mai dernier, un autre homme avoue, après avoir été confondu par la généalogie génétique. Cette technique consiste à comparer un échantillon d'ADN prélevés sur une scène de crime avec les bases de données publiques de sites internet. Aux États-Unis, de nombreuses personnes réalisent des tests ADN pour retrouver des cousins éloignés et confient leur profil génétique à ces sites. Les poursuites contre Kevin Spacey pour agression sexuelle sont abandonnées. Ce dossier, instruit dans l'État du Massachusetts, était le seul où l'acteur était inculpé. L'acteur n'en a peut-être pas fini pour autant avec la justice. D'autres enquêtes sont ouvertes à Londres et aux États-Unis.
À présent, Laurence, à 7h10, prenons un peu de hauteur.
Et partons sur le toit de la Grande Arche de la Défense. Elle fêtait hier ses 30 ans. Le monument souffre de la concurrence de la Tour Eiffel et pourtant perché à 110 mètres de hauteur, le rooftop de la Grande Arche de la Défense offre un spectacle unique, époustouflant à ceux qui osent l'expérience. À son sommet, une vue panoramique à 360 degrés sur Paris. 140 000 visiteurs en ont fait l'expérience l'an dernier. Le toit est resté à l'abandon de longues années jusqu'à sa réouverture en 2017. Un succès populaire, même si l'exploitation commerciale du monument est loin de mettre tout le monde d'accord, Thibault Lefèvre.
Le clou du spectacle, c'est la splendide vue Paris d'un côté et l'ouest francilien de l'autre.
Le Mont Valérien, il est là en fait.
Catherine est déjà montée au sommet de l'Arche, c'était il y a 15 ans.
La Grande Arche était un peu triste. On n'avait pas cette vue à 360 degrés qui est vraiment extraordinaire. Ouais.
La grande terrasse est perchée à 110 mètres de haut. Elle fait la taille d'un terrain de football et peut accueillir environ un millier de personnes. De quoi imaginer des dizaines d'activités. C'est le travail de Corinne de Conti. Elle dirige City One 111, l'entreprise qui a obtenu la concession du lieu.
On s'était dit que avoir la vue, c'était superbe, mais qu'il fallait aussi le compléter d'autres choses. Donc on a les mardis et les jeudis des afterworks. On a un espace culturel qui nous permet d'accueillir de grandes expositions photographiques. Il y a quelque chose pour tout le monde sur le toit de la Grande Arche.
Et pourtant, l'offre d'activité ne fait pas l'unanimité. Laurence Cosset est l'auteur d'un ouvrage récent sur l'histoire de la Grande Arche.
C'est un peu navrant que dans ce grand bâtiment, il y ait un concessionnaire privé, un musée. Il aurait pu occuper les lieux et les exploiter, pourquoi pas commercialement. Ça aurait été bien qu'il y ait davantage de sens dans l'exploitation de ce lieu unique.
Une exploitation qui n'est aujourd'hui pas rentable. Les dirigeants de City One 111 espèrent être à l'équilibre d'ici 3 ans.
Thibault Lefèvre. Et puis un changement de décor et de dimension aujourd'hui pour le Tour de France avec la première étape pyrénéenne, la montagne donc. Toulouse-Bagnères-de-Bigorre, 209,5 km et deux cols de première catégorie sont au programme.
Ça promet. C'était le journal de Laurence Thomas.